C'est évidemment aujourd'hui la cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine, cérémonie qui a lancé son cinquième mandat à la tête du pays. Pour en parler, Ulysse Gosset nous a rejoint, éditorialiste politique internationale. Bonsoir à vous, bonsoir. Ulysse. Et on accueille sur ce plateau Zana Agalakova. Vous êtes ancienne correspondante à Paris de la chaîne russe Channel One. Vous avez quitté le pays au début du conflit, c'est bien ça ?
Non, j'ai pas rentré en pays parce que moi j'étais correspondant ici à Paris, en France. Et après la guerre, j'ai quitté mes fonctions et j'ai jamais revenu en Russie.
Vous avez quitté vos fonctions de journaliste, pour la télé russe en signe de protestation face au pouvoir. Et on est également avec Paul Gogo, notre correspondant pour BFM TV à Moscou. Bonsoir à vous, Paul. On va revenir. J'aimerais qu'on revoie ces images assez fascinantes de cette cérémonie d'investissement. Est-ce qu'on peut les décrire ensemble, Ulysse Gosset, 2500 personnes environ qui étaient là, présentes, l'élite politique russe, mais pas seulement, il y avait aussi des combattants russes. Il y avait qui d'autre ?
Il y avait quelques invités, peut-être un qu'il faut signaler en particulier, c'est l'ambassadeur de France qui a assisté donc à la cérémonie d'investiture. On s'est posé la question jusqu'à ce matin parce que effectivement le même ambassadeur donc avait été convoqué hier par le Kremlin après les propos du président de la République sur le nucléaire. Et donc convoqué la veille et présent aujourd'hui alors que d'autres ambassadeurs européens n'ont pas fait le déplacement. On s'est demandé pourquoi. Et peut-être la raison c'est que vous savez que la France a invité un représentant russe aux cérémonies du D-Day qui vont avoir lieu donc le jour le plus long sur les plages de Normandie le 6 juin prochain. Peut-être c'est aussi la volonté d'Emmanuel Macron de maintenir un fil de dialogue tenu malgré les oppositions radicales entre Macron et Poutine sur ce qui se passe en Ukraine.
D'autres ont dit que ça faisait écho justement à la visite de Xi Jinping également avec les mots d'Emmanuel Macron qui a dit hier que la France n'est pas en guerre avec la Russie ou le peuple russe, qui ne cherche pas un changement de régime à Moscou. Voilà, c'est dans cette volonté de maintenir
c'est important de rappeler que la France n'est pas en guerre avec la Russie. Elle est aux côtés de l'Ukraine pour empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine et pour l'obliger à reculer. Mais on n'est pas formellement en guerre avec la Russie. Et effectivement, à l'occasion de cette visite du président chinois, qui a suscité beaucoup de débats, l'un des résultats, c'est d'avoir obtenu un appel à une trêve pendant les Jeux Olympiques de l'été prochain. Le problème, c'est que la Russie refuse cette trêve. Donc, est-ce que Xi Jinping, qui va recevoir bientôt Poutine à Pékin, va réussir à le convaincre ? En tout cas, on voit qu'il y a cette volonté, malgré les difficultés, malgré les accords, malgré la guerre qui continue, de maintenir une espèce de lien, pas un dialogue au niveau présidentiel, mais quand même, en envoyant l'ambassadeur, on envoie un petit signal à Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine, qui a consacré les premiers et les derniers mots de son discours d'investiture à la guerre. On écoute un petit extrait.
Nous regardons devant nous avec confiance. Nous sommes une grande nation unie et c'est ensemble que nous surmonterons tous les obstacles, que nous réaliserons tout ce que nous avons prévu. C'est ensemble que nous gagnerons.
Donc un discours sous le signe de la confrontation avec l'Ukraine et pas seulement, avec l'Occident aussi. Comment vous l'avez interprété ?
Le Poutine, il a dit qu'il n'y ait pas la possibilité de dialogue avec les pays occidentaux. Mais il a dit, il répète ça depuis toujours. Et après, il envahit l'Ukraine, il menace l'Union européenne avec les bombes nucléaires, etc.
Il dit quand même, nous ne refusons pas le dialogue avec les États occidentaux. Leur choix leur appartient. Ont-ils l'intention de continuer à essayer de contenir le développement de la Russie, de poursuivre la politique d'agression, etc. Tout dépend de ça, en gros. C'est ce que dit Vladimir Poutine.
Je crois que tous ces discours, ils sont un peu comme ça. Il dit, OK, on est amis avec tout le monde si vous partagez notre valeur, mais ce qu'il fait, ça compte beaucoup.
Paul Gogo, vous êtes avec nous en direct depuis Moscou. Comment il a été vécu, ce discours d'investiture ? Est-ce que c'est une cérémonie qui a été très suivie ? Parce que, on le répète, hein, ce cinquième mandat, c'était pas une surprise.
Alors, c'était pas une surprise, mais c'était pas non plus une évidence à l'origine. Parce que, il faut le rappeler, c'est en 2020 que Vladimir Poutine a pris la décision de ne pas rendre le pouvoir aux Russes. En 2020, il a décidé de changer la constitution et de donc s'autoriser à rester au pouvoir, à effectuer un cinquième mandat. Donc, c'était pas une évidence en 2020. Quelques années sont passées. Les Russes ont appris à vivre avec cet état de fait. avec un président qui n'avait pas la volonté de quitter le pouvoir. Donc effectivement, ce point-là n'a pas fait débat aujourd'hui. Les Russes en ont pas particulièrement parlé, surtout que je le précise, nous sommes dans les fêtes de mai en Russie, début mai, les 10 premiers jours de mai. Tout le monde est à la datcha, tout le monde est en week-end en dehors de Moscou. Donc je ne suis pas certain que beaucoup de Russes aient suivi cette cérémonie. D'autant plus que c'est une cérémonie très protocolaire, alors filmée comme au cinéma, hein, avec des dispositifs de télévision assez impressionnants. Mais ce sont des images en fait qu'on voit depuis 25 ans. Ce sont les mêmes images que les Russes voient depuis 25 ans, avec le même Vladimir Poutine qui arrive, alors pas avec les mêmes voitures, parce que ces voitures sont de plus en plus blindées et modernes depuis quelques années, mais le même Vladimir Poutine dans son cortège, le même président russe dans son couloir, dans le couloir du Kremlin, le même président qui entre dans cette grande salle avec cette foule qui l'acclame, et le même Vladimir Poutine qui prête serment sur la Constitution. Donc pour l'instant, pas de grande surprise, mais par contre, c'est effectivement aujourd'hui qu'on comprend qu'un nouveau mandat commence et qu'avec ce nouveau mandat, ce sera aussi peut-être un nouveau Vladimir Poutine.
Promet qu'il vaincra l'Ukraine. Paul Gogo, est-ce que cette guerre, elle est toujours populaire en Russie 2 ans plus tard ?
Eh bien, c'est une vraie différence en fait avec le début de la guerre, parce que les discours que Vladimir Poutine tient aujourd'hui, au quotidien et aujourd'hui encore, et qu'il tiendra certainement le 9 mai pendant la parade militaire qui aura lieu sur la place Rouge, montrent une assurance totale du président russe, parce qu'il part du principe qu'il est parvenu à convaincre la population qu'il faut le suivre dans cette guerre, que cette guerre est nécessaire, que c'est une question existentielle. Et donc Vladimir Poutine parle aujourd'hui à la population russe comme si tout était acquis. Et de fait, le président russe s'est débarrassé d'une grande partie de l'opposition, de ceux qui exprimaient des voix dissonantes ou qui étaient soupçonnés de ne pas soutenir le président russe. Il a un plein contrôle sur sa société aujourd'hui. Vladimir Poutine, aujourd'hui, s'il souhaitait lancer une offensive, une nouvelle offensive dans le Donbass, aurait certainement beaucoup moins les mains liées qu'il ne l'avait en 2022 lorsqu'il a lancé cette offensive sur l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, la société, elle vit au rythme de la guerre, elle vit dans un état d'économie de guerre, et ce sont des discours qu'on a beaucoup entendus ces derniers jours et qu'on entendra encore dans les jours qui viennent. Les Russes considèrent maintenant que c'est une question de menace existentielle et qu'ils doivent tous s'unir derrière le président russe pour remporter de la guerre, parce qu'il y a aussi une question de fierté nationale qui est vraiment très souvent mise en avant par le président russe.
Mais intéressant de voir aussi à quel point la parole est contrôlée en Russie. Ça, c'est quelque chose que nous, on a du mal à imaginer, mais on voulait vous montrer ce document. C'est un extrait du reportage signé Jérémy Normand et Étienne Grelet. On comprend à quel point il est impossible de parler librement de la guerre. C'est une séquence qui a été tournée dans un local associatif qui soutient l'effort de guerre. C'est à 70 km à l'ouest de Moscou. On regarde.
L'accès aux associations de soutien militaire comme celle-ci est extrêmement rare pour les journalistes étrangers. Nous y découvrons de nombreux cartons remplis de nourriture, de cigarettes et de vêtements chauds.
On écrit le nom du soldat, on y ajoute des lettres et des petites peluches. Regardez celle-ci, son surnom c'est Trump.
Donald Trump ?
Oui, Donald Trump.
C'est plutôt un ami ou un ennemi, Donald Trump ?
Oui, on verra si c'est notre ami. Là, je ne peux pas vous répondre. C'est de la politique.
Depuis notre arrivée, un homme qui se présente comme simple bénévole suit attentivement le déroulé de l'interview et n'hésite pas à souffler les réponses à Victoria. Qui est-il exactement ? Nous ne le saurons pas. L'homme a aussi emmené sa fille, Dasha, 10 ans, pour bien nous montrer qu'ici, toutes les générations prennent leur part à l'effort de guerre.
Dasha, dis-nous ce que tu as écrit et à qui.
J'écris une lettre aux soldats.
Plus fort.
J'écris une lettre aux soldats.
Qu'est-ce que tu écris dedans ? De quoi s'agit-il ?
Qu'ils sont forts, courageux et intrépides.
Tu leur souhaites quelque chose ?
Oui, de la victoire.
Tu écris de ta part ?
Oui.
Tu penses vraiment ce que tu écris, n'est-ce pas ?
Oui.
Nous sommes autorisés à lui poser quelques questions. Malgré la surveillance de son père, ses réponses sont alors plus nuancées.
Avec tes mots à toi, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'opération militaire spéciale ?
Chacun défend sa patrie là-bas.
Est-ce que toi, ça te fait peur, la guerre ?
Oui. Des gens meurent là-bas. Ça fait peur.
Zana Agalakova, c'est ça la réalité de la Russie aujourd'hui. Impossible de dire d'ailleurs réellement ce qu'on pense de cette guerre. On n'a pas le choix, il faut la soutenir.
Non, absolument. Il y a même quelques discours, un petit discours dans la classe, en école, et les enfants pour dénoncer son prof et le prof pour dénoncer les enfants. Et donc les parents vont avoir des soucis.
Beaucoup de délation.
Ouais.
Ulysse Gosset, il a parlé, je disais, il a répété que la Russie allait vaincre l'Ukraine.
L'offensive... Oui, mais justement, c'est ensemble nous vaincrons, pas simplement l'Ukraine, nous vaincrons l'Occident. On est dans une lutte Occident contre la Russie et avec la Chine comme protecteur. Attention.
Et comme fournisseur.
Et comme, alors...
Si, il faut être très clair quand même.
Ce qui est intéressant lors de la visite du président chinois à Paris, c'est qu'il s'est engagé auprès d'Emmanuel Macron. Je ne dis pas qu'il suivra ce qu'il fait, mais il a dit publiquement qu'il s'engageait à ne pas fournir des armes à la Russie.
Mais des composants.
Ça traduit l'attitude ambiguë de la Chine, qui effectivement dénonce la guerre, mais ne condamne pas Poutine pour avoir envahi l'Ukraine. Et néanmoins, c'est très important parce qu'on sait très bien que sans la Chine, Poutine ne pourrait pas continuer la guerre. Donc cette alliance sans limite, telle que le décrivent les deux présidents russes et chinois, elle est extrêmement importante. Mais effectivement, c'est une lutte plutôt contre l'Occident. C'est la Chine qui incarne le nouveau monde, la fin de la mondialisation à l'occidentale ou la mondialisation américaine. Donc cette guerre en Ukraine, elle est révélatrice de ce climat, du fossé qui existe entre deux mondes. Le monde de la Chine, de la Russie et d'une partie du reste du monde, c'est-à-dire l'Afrique aussi et une partie de l'Amérique latine, contre les Occidentaux qui perdent une partie de leur pouvoir. Et quand Poutine dit « ensemble nous vaincrons », c'est très intéressant parce qu'effectivement il cherche à ressouder tout son peuple derrière lui, mais il admet aussi que c'est une période difficile que traverse la Russie. Ça veut dire que la guerre n'est pas gagnée pour autant. Et même si aujourd'hui sur le front, les Russes gagnent du terrain, il y a quand même de tels enjeux à la fois pour la Chine, pour les Américains et pour le reste du monde, qu'on voit bien que personne ne souhaite vraiment ni une défaite de l'Ukraine, ni une victoire de la Russie. Ça va jouer dans les semaines et les mois qui viennent. Le risque, c'est que cette guerre qui continue avec un Poutine qui est très déterminé, qui détruit, il faut le rappeler, tous les jours des bombardements intensifs sur les villes ukrainiennes, c'est vraiment du pilonnage, un petit peu comme à Mariupol, comme à Bakhmout ou comme dans les villes de Syrie qui ont été bombardées par les Russes. Donc c'est une volonté de destruction et il ira jusqu'au bout, sauf si on peut l'arrêter. Et ceux qui peuvent l'arrêter, ils ne sont pas nombreux. Il y en a un, c'est le président chinois, qui notamment dit à Poutine, pas d'armes nucléaires en Ukraine. C'est très important parce que Poutine n'arrête pas de faire du chantage au nucléaire. Encore hier, il a déclaré qu'il allait déclencher des exercices nucléaires.
Très proche de la frontière avec l'Ukraine.
Mais à la frontière ukrainienne. Mmh. C'est absolument incroyable. Donc, si vous voulez, c'est très important de pouvoir analyser ce discours, voir ce que fait la Chine et on verra donc si effectivement cette visite à Paris du président chinois porte ses fruits ou non, notamment pendant les Jeux Olympiques de cet été.
Vous souhaitez intervenir, Péricolégas?
Juste une petite divergence avec la brillante explication d'Ulysse. Je pense que ce n'est pas un conflit russe-Occident. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, vous l'avez dit Ulysse, il y a l'Afrique. C'est ces pays-là contre l'hégémonie américaine. Tout le monde n'est pas atlantiste. Et le général de Gaulle voulait échapper à cette situation, que l'Europe et la France aient leur statut à part. Or, chaque fois que nous nous alignons sur les Américains, eh bien, eux ont tendance à se replier sur leur position. Est-ce qu'on peut arriver à un moment donné à une concertation avec une troisième voie? Est-ce qu'on peut échapper au duel Occident, Américain et Sino-Russe en créant une Europe puissante qui s'affirme sans avoir de dépendance ni militaire ni économique, dans les valeurs démocratiques, dans le respect des frontières, dans le respect des peuples.
C'est exactement ce que Macron a expliqué au président chinois.
Oui, mais...
Si vous affaiblissez l'Europe, notamment par votre stratégie économique, vous la poussez dans les bras des États-Unis.
Voilà.
Donc aidez-nous à avoir une Europe qui soit économiquement forte pour être diplomatiquement indépendante. Donc là, on peut avoir un intérêt gaullien assez équilibré.
Il y a eu une nouvelle aujourd'hui qui est assez incroyable et qui reflète quand même la tension qui règne. Les Ukrainiens affirment qu'ils ont arrêté deux agents pro-russes, des agents du FSB, mais ukrainiens, qui étaient missionnés pour assassiner Zelensky. Et alors, est-ce que c'est de la pure propagande de guerre, on pourrait le comprendre, ou est-ce que effectivement il y a une volonté de se débarrasser de Zelensky? En tout cas, on voit vraiment que dans ce discours au Kremlin, avec tous les fastes et les ors du Kremlin, il y a cette volonté de Poutine d'aller vraiment jusqu'au bout. Il faut vraiment en avoir conscience et il faut l'arrêter. Parce que si, effectivement, il renversait Zelensky et s'il prenait le contrôle de l'Ukraine, ça ne serait pas la dernière marche, si j'ose dire, de l'Empire russe. Donc, il faut vraiment avoir conscience de cette menace qui pèse sur l'Ukraine et un certain nombre de pays européens.
Zana Agalakova, juste là-dessus, est-ce que vous pensez que le Kremlin a pu tenter d'assassiner Vladimir Zelensky?
Bah, nous avons l'histoire très longue et très la liste des victimes de Poutine très longue, à partir de Navalny qui est très récent jusqu'à, je me rappelle, 2003, le correspondant, le journaliste de Novaya Gazeta, Yuri Shekhochikhin, qui était un des premiers journalistes qui était assassiné.
Mais il irait jusque là, jusqu'à tuer le président ukrainien dans le contexte qu'on connaît?
Je ne pas ça. C'est possible. Le Poutine, il a besoin de victoire absolument, parce que dans 6 ans, on a d'autres élections. Je pense pas que ça sera vraiment des élections et vraiment d'une autre cérémonie d'investiture, parce que Poutine est déjà un roi. C'est comme aujourd'hui, le patriarche, pendant la messe, a dit « Votre Altesse » au lieu de dire « Votre Excellence ». Il a fait un gaffe, mais il doit dire pas Votre Altesse, mais Votre Majesté, parce que Poutine...
C'est le tsar, c'est le nouveau tsar.
C'est le nouveau tsar, tout à fait.
Et qui pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036.
Il pouvait rester.
Il pourrait. Il pourrait être réélu encore une fois.
Oui, mais il n'a pas besoin d'élection. Il juste règne.
Parce qu'il a révisé la Constitution récemment pour pouvoir rester potentiellement jusqu'en 2036.
Exactement. Et il a obtenu au dernier scrutin près de 88%, 87,8%.
La vraie tragédie, ça serait qu'il y ait un vrai suffrage universel en Russie avec un référendum authentique contrôlé par l'Occident et que le résultat soit catastrophique. C'est-à-dire qu'il est quand même la majorité. Il y a une part d'influence et de conditionnement des esprits, mais il y a aussi une part visiblement de l'opinion russe qui, pour les raisons de conflit entre la Russie, la nostalgie de l'Union soviétique, cette grande puissance face à un Occident qui est apparu parce que la propagande dit ils sont tous contre nous, il n'est pas impossible que, hélas, l'opinion russe soit toujours majoritaire.
Il a aussi du soutien en Russie. Il y en a
massif.
Ce serait possible,
plus de 50%, mais c'est pas 80.
Oui, c'est pas 87.
Pourquoi
s'est-il arrêté à 87? Moi, j'aurais fait 92.
Mais bon, selon les disques, jusqu'à 30 millions de voix ont été falsifiées. Voilà. C'est ça.
Et puis l'élimination des candidats avant l'élection.
C'est surtout ça. Aujourd'hui, une élection sans opposant de la trempe de Navalny ou d'autres, eh bien, elle est gagnée d'avance par celui qui contrôle le pouvoir.
Mais vous dites que même s'il n'y avait pas d'élection truquée, plus de 50% de la population soutiendrait Vladimir Poutine, continuerait à le soutenir.
Aujourd'hui, oui. Mais c'est la guerre continue. Je crois que cette chiffre-là va baisser.
Parce qu'il y a les conséquences de cette guerre, elles se ressentent vraiment en Russie. C'est quoi les conséquences pour le quotidien des Russes?
Le Gazprom, ils en ont annoncé aujourd'hui. Le Gazprom, le monstre incroyable de Poutine, son arme nucléaire en termes économiques, pour la première fois est devenu débiteur. Il n'a plus de profit. Même grâce à l'aide de la Chine, il ne pouvait pas vendre autant qu'il a vendu à l'époque à
Oui, parce qu'à terme, effectivement, la Russie a perdu beaucoup d'argent. Elle vend toujours à l'Inde, elle vend toujours à la Russie son gaz, son pétrole, mais à des prix très bas. C'est là où les Chinois sont terribles. C'est-à-dire qu'ils tiennent, en fait, dans leurs mains Vladimir Poutine avec les importations de gaz et de pétrole. La Russie est quand même menacée par les sanctions à terme. On dit toujours que, pour l'instant, les sanctions ne servent à rien. En fait, c'est faux. Elles servent à quelque chose. La meilleure preuve, c'est qu'effectivement, Poutine a besoin d'acheter des composants électroniques en Chine pour équiper ses chars, ses tanks, avec des composants optiques, etc. Donc, il est quand même lié avec la Chine. Finalement, la Chine est en train de basculer vers l'Orient, alors qu'elle était une grande puissance européenne du temps de Catherine II et d'autres.
Est-ce qu'on est en mars 1918 avec une armée allemande qui à la fois réussit une percée et s'effondre parce que l'intendance ne suit pas?
Merci à tous. Merci beaucoup à tous les 6. Merci à tous les 2 d'être venus sur ce plateau. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine.